Aujourd'hui, je vais être à cheval sur l'économie et la psychologie. Et je vais m'intéresser, alors je vais être obligé de tourner là. Voilà, donc le thème de ma conférence est quand l'économiste lit dans la pensée des autres, la formation des préférences sociales. Et je vais m'intéresser surtout aujourd'hui, essentiellement aujourd'hui, aux décisions que nous prenons en situation d'interaction sociale avec les autres. Alors, des décisions, il y en a de plusieurs types. Il y a des décisions parfois qui sont unilatérales, comme un dictateur qui prend des décisions pour ses sujets, ou un chef de famille qui est une sorte de dictateur qui prend aussi des décisions, mais de manière plus bienveillante peut-être, pour ses propres les membres de sa famille. Ce sont des situations que, éventuellement, on va les revoir un petit peu plus loin dans l'exposé, qu'on peut analyser à travers la théorie des choix individuels et particulièrement la théorie des choix sociaux. Et puis, il y a d'autres décisions qui sont des décisions bilatérales ou multilatérales. Et en ce sens que chaque acteur prend une décision pour lui-même et le résultat pour chacun dépendra de toutes les décisions prises, non seulement de sa propre décision mais aussi de celle des autres. Et ça, ce sont les situations qui sont analysées en économie par la théorie des jeux. Alors simplement, la théorie des jeux classique, celle qu'utilisent les économistes, suppose que chaque joueur choisit la stratégie qui répond le mieux à ses intérêts, étant donné les stratégies des autres, c'est-à-dire celles qu'il anticipe que les autres auront, à tort ou à raison, mais dans ce qu'on définit comme l'équilibre, ce sera à raison. Et dans ces théories, le comportement des joueurs présumés est supposé égoïste, en ce sens que chacun s'intéresse à lui-même et ne s'intéresse pas directement à autrui. Il s'intéresse indirectement, mais à travers ce qui le concerne lui, mais pas en soi. Et nous allons voir un certain nombre de situations où la théorie des jeux est remise en question. Et des situations d'interaction sociale. Alors, je vais vous présenter quelques exemples très simples, très connus. Et au terme de ces exemples, nous allons introduire une approche nouvelle, inspirée par la psychologie, qui est au fond la théorie de la cognition sociale, c'est-à-dire la connaissance des autres, des comportements et des intentions et des actions des autres, ou encore ce qu'on peut appeler en philosophie la théorie de l'esprit, comment nous nous représentons les autres. Et ceci nous permettra aujourd'hui de répondre à toute une série de questions, j'en énumère quelques-unes si vous voulez. Pourquoi sommes-nous capables de sentiments moraux dans les petits groupes, comme la famille, comme une communauté, alors que nous devenons égoïstes dès lors que nous sommes sur un marché? Pourquoi aimons-nous ceux qui nous ressemblent plus que les autres, en général? Pourquoi faisons-nous parfois confiance aux autres, et même à des inconnus, pour décider à notre place? Pourquoi, en maintes situations, savons-nous ce qui est juste sans avoir besoin de discuter avec nos interlocuteurs et en étant en fait en accord implicite avec nos interlocuteurs? Et pourquoi et quand adhérons-nous à des normes sociales comme des normes de justice? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors, j'ai dit que j'allais commencer par des exemples qui montrent comment la théorie des jeux est remise en question. Alors, je vais vous montrer en effet deux jeux, je reviendrai un petit peu en arrière après. Je vais vous montrer deux jeux très classiques, très simples, qui ont été obtenus, qui ont été étudiés en laboratoire, par l'économie expérimentale, qui sont le jeu de l'ultimatum, d'une part, et un jeu de marché, d'autre part. Et ces jeux sont très proches l'un de l'autre. Ils diffèrent quand même un peu. Et cette simple différence suffit à changer complètement ce qu'on appelle l'équilibre, le résultat, la solution du jeu. Et en même temps, l'un des équilibres que l'on obtient dans le jeu de marché est tout à fait conforme à ce que prédit la théorie des jeux, avec l'hypothèse de comportement égoïste des joueurs, tandis que l'autre, dans le jeu de l'ultimatum, ne respecte pas la solution préconisée par la théorie économique. Donc il y a une sorte de contradiction, si vous voulez, une anomalie qui a joué un rôle très important, d'ailleurs, en économie comportementale. Et ceci confirme, en fait, ce résultat va confirmer, donc je vais revenir un petit peu en arrière, ceci va confirmer une intuition déjà ancienne, puisque c'est celle du celui qu'on peut appeler le père de la science économique, qui est Adam Smith, un philosophe anglais ou écossais, qui a écrit deux grands ouvrages en 1759, alors qu'il était un philosophe moral, La théorie des sentiments moraux, et en 1776, presque 25 ans après, le grand ouvrage fondateur de l'économie, La théorie de la richesse la richesse des nations. Et Adam Smith, dans son premier ouvrage, alors qu'on ne l'aurait pas encore appelé économiste, avait bien compris que nos préférences dépendent d'un contexte social, que suivant le type d'interaction, nous pouvons faire apparaître un comportement ou un autre. Un comportement égoïste, par exemple, dans l'échange marchand, qui se développait à son époque, c'était déjà la première mondialisation au temps de Adam Smith, et alors que dans les petites communautés familiales ou villageoises, religieuses, etc., l'homme s'avère capable de sentiments moraux, de solidarité. Donc, comment se fait-il que le même homme, au fond, s'avère aussi changeant suivant la situation, suivant le contexte? Eh bien, on va en voir effectivement un bon exemple ici, une bonne illustration. On va commencer par le jeu de l'ultimatum. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est un jeu très simple. C'est un jeu qui se joue entre deux joueurs et à deux étapes. Le premier joueur, qu'on appelle en général le proposant, celui qui fait une proposition, reçoit une somme d'argent, par exemple 10 euros, qu'il doit répartir entre les deux joueurs. Il garde une partie pour lui et donne le reste au deuxième joueur, qu'on va appeler le répondant. Pourquoi le répondant ? Parce que le deuxième joueur peut encore faire quelque chose en réponse à l'offre qui lui a été faite. Il peut soit accepter cette offre telle qu'elle, et alors elle s'impose aux deux joueurs, soit la rejeter. Et dans ce cas, la somme est perdue pour tout le monde.
Excusez-moi, la somme complète des 10 euros ?
Non, c'est-à-dire que la somme qui lui est proposé à lui, mais aussi finalement la somme qui aurait dû revenir au proposant. Donc finalement la somme complète en quelque sorte, elle est en quelque sorte détruite. Alors Voilà la seule réponse, les seules réponses possibles pour le deuxième joueur, le répondant. Eh bien, que dit la théorie des jeux ? Admettons que les deux joueurs soient rationnels et le sachent. Eh bien, le premier joueur dispose, dans ce cas, d'un avantage stratégique, du fait qu'il joue le premier. Pourquoi ? Parce que, au fond, il est toujours préférable pour le deuxième joueur d'accepter quelque chose, même des miettes, plutôt que de refuser. C'est mieux d'avoir un euro que zéro. Donc, sachant cela, le proposant, supposé égoïste, c'est-à-dire ne s'intéresser qu'à lui-même, notez bien, l'égoïste, ça ne veut pas dire la méchanceté. On s'intéresse à soi-même, ça ne veut pas dire qu'on en veut à l'autre. C'est juste qu'on s'en fiche. Voilà. Donc le proposant égoïste a intérêt à laisser au répondant la plus petite part possible. Par exemple, 1 euro s'il a du zéro au départ et qu'on ne peut pas fractionner les montants en plus petite part. Donc c'est un partage évidemment assez léonin qui donne par exemple 9 euros au proposant et 1 euro au répondant. Mais au fond, il est sûr que le répondant n'a aucun intérêt à refuser cette somme, puisqu'il vaut mieux avoir quand même 1 euro que 0 euro. Donc ça correspond à la définition de ce qu'en théorie des jeux on appelle un équilibre parfait en sous-jeu, et c'est considéré comme la solution la plus satisfaisante de ce jeu. Maintenant, en réalité, vous vous en doutez bien, parce que je crois que ça correspond à une intuition que nous avons tous, mais ça a été confirmé en laboratoire par une expérience célèbre de Werner Guth, un Allemand, et ses collaborateurs en 1982, qui a été peut-être un des points de départ, en tout cas probablement le point de départ le plus important de très nombreuses recherches en laboratoire d'économie comportementale sur des jeux. Qu'observe-t-on ? Eh bien, c'est que le proposant est relativement juste, en ce sens qu'il partage à peu près en deux. Le mode des offres est autour de 50%, 40% peut-être. Il en prend un peu plus, il en prend un petit peu plus pour lui. Et l'autre l'accepte. On ne voit jamais, pratiquement, d'offres dépasser 50%. Personne ne propose plus que la moitié. On voit très peu d'offres inférieures, disons, à 20%. Non pas qu'il y ait un seuil fatidique, mais bon, c'est juste pour fixer les idées. Il y a de moins en moins d'offres au fur et à mesure qu'on descend. Et par ailleurs, on comprend pourquoi il y en a peu, parce que les offres très basses ou trop basses sont fréquemment rejetées. Plus l'offre est basse, et plus la probabilité du rejet est élevée. Et enfin, le fait de répéter ce jeu ne change pas fondamentalement ses résultats. Donc voilà des faits stylisés, observé à propos de ce jeu, le jeu de l'ultimatum, et qui démente, au fond, le modèle économique de théorie des jeux, tel qu'il est utilisé en théorie des jeux.
Excusez-moi.
Oui.
Est-ce que les joueurs savent qu'ils vont répéter le jeu plusieurs fois ?
Non, il est joué, très souvent, il est joué en une seule fois, un seul coup, one shot. Et peut-être répéter, dans ce cas ils savent bien sûr, on ne leur ment pas.
Parce que s'ils savent à l'avance qu'il est répété, c'est normal que la personne rejette des faibles montants, sachant qu'elle a une pression sur l'autre.
Oui, on va y revenir d'ailleurs un peu plus, enfin si j'ai le temps, éventuellement plus loin, mais ça peut effectivement peut-être plus facilement s'expliquer, mais même à un seul coup, hein, si vous voulez, il faut commencer par là, ça marche, voilà. Et prenons au contraire le jeu de marché, enfin un jeu de marché, je l'ai appelé comme ça. C'est un jeu également à deux étapes. qui ressemble beaucoup au jeu précédent. Seulement, au lieu qu'il y ait... il y a également un répondant, mais au lieu qu'il y ait en face un seul proposant, il y en a plusieurs. Par exemple, vous aurez 9 proposants et un répondant. Et l'unique répondant, on peut dire, enfin, on peut l'interpréter comme un acheteur, un consommateur, qui voudrait acheter une unité d'un certain bien au meilleur prix. Et il fait face à 9, par exemple, 9 vendeurs potentiels, là, dans la rue, l'un à côté de l'autre. Et les proposants, les vendeurs, se font concurrence. Et c'est, ils vendent tous exactement la même chose. Donc c'est celui qui offre au meilleur prix, et un prix assez bas pour que le répondant veuille bien l'acheter, qui emporte la mise. Donc un seul proposant emportera la mise, et le répondant, évidemment, de son côté. Et comme dans le jeu de l'ultimatum, le répondant peut... à deux réponses possibles. Soit il accepte, évidemment, la meilleure offre et une seule transaction a lieu à ce prix. Alors, s'il y a des ex-aequos, ce qui est possible, on décidera au sort lequel des proposants a le droit de vendre. Hein. Et soit il rejette même la meilleure offre, parce qu'elle la juge pas assez intéressante, et auquel cas, aucune transaction n'a lieu. Et la somme, en fait, est détruite, comme tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui a changé par rapport au jeu de l'ultimatum? La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a maintenant une concurrence entre les proposants. Par exemple, il y a 9 proposants qui se font concurrence au lieu d'un seul, une sorte de monopole. Et la concurrence va, en fait, bouleverser l'équilibre théorique du jeu. On comprend bien l'intuition. Les proposants vont... Vous pourrez par exemple dire, supposons, fort de la première expérience, qu'on se dise, il faut proposer au moins la moitié pour avoir une chance d'être accepté. Bon, alors on va proposer la moitié. Mais en réalité, la moitié, ça ne suffit pas, parce qu'ils vont tous être... s'ils proposent la moitié, ils vont tous être ex aequo. Donc, peu à peu, il y en a un qui va comprendre, qui va essayer de surenchérir pour... être celui qui emporte la mise et gagner le plus possible, et ainsi de suite. Hein. Donc on va trouver, en général au bout de quelques répétitions du jeu, mais on va trouver qu'en fait, on va arriver à un moment où, c'est ce qui est l'équilibre théorique du jeu, où au moins 2 proposants donnent le bien en question, la somme en question, à l'unique répondant. Donne, c'est-à-dire, au fond, ne gagne rien pour eux-mêmes. Ils laissent tout au répondant. C'est lui qui a exploité la concurrence à son profit, en quelque sorte. Et, bien sûr, ce répondant accepte. Eh bien, ça, c'est exactement ce que l'on observe, en tout cas après quelques répétitions du jeu, lorsqu'on joue ce jeu en laboratoire. Donc les résultats, ceux de Roth notamment et ses collègues, font état d'une convergence vers l'équilibre après quelques répétitions. Donc voilà, ici, l'équilibre du jeu unique dans ce cas est observé en réalité, enfin est observé en laboratoire. Et en fait, ça correspond à l'idée de la concurrence qu'on observe sur des marchés, qui joue ici au bénéfice du consommateur. Alors que dans le jeu de l'ultimatum, qui est finalement assez proche, l'équilibre le plus plausible pour l'économiste, l'équilibre parfait en sous-jeu, n'est pas observé. Donc voilà une situation où, selon le type d'interaction sociale, la théorie des jeux est soit avec l'hypothèse du comportement égoïste des joueurs, et soit vérifiée, soit infirmée.
Oui. Le jeu est un vrai jeu.
Oui.
C'est-à-dire que le proposant, s'il propose la totalité de la somme, n'a rien à perdre, en quelque part. Alors que si c'est quelqu'un qui produit quelque chose et qui produit quelque chose avec des concurrents autour, il faut bien quand même qu'il gagne sa vie. Et à ce moment-là, il ne va pas tout proposer. Est-ce que c'est...
Non, oui, oui, d'accord. Oui, oui, parce que... Non, mais ça revient à dire que le...
Oui.
Non, mais ça revient à dire simplement que le coût de production est nul ici. Donc il ne peut pas perdre. Il ne fait qu'un profit nul, c'est tout. Il était clair que lui préférerait proposer, le donner le moins possible, au fond, peut-être. Ou en tout cas, peut-être la moitié, à la rigueur, s'il est juste. Mais c'est la concurrence que se font les proposants entre eux qui pousse à une surenchère et qui va conduire, en fait, à atteindre cette équipe, c'est-à-dire finalement... À donner, comme il n'y a pas de coût pour lui, il peut aller jusqu'à gagner un tout petit peu lui-même et à la fin, rien du tout, en fait. Hein. Enfin, si. Oui. Donc, ça correspond à l'hypothèse du profit nul en concurrence. Hein. Voilà. Donc, la question. Au fond, le point de départ de cet exposé, c'est pourquoi, dans un cas, qu'est-ce qui fait que dans un cas, la théorie est vérifiée et dans l'autre cas, elle ne l'est pas ? Alors, comment peut-on aussi expliquer ces comportements ? Alors, en fait, les premières explications économiques consistent à introduire l'autre dans les préférences a priori des joueurs. Donc a priori, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peu tombé du ciel, je dirais, hein, si vous voulez. Hein. Par exemple, on peut faire une hypothèse d'altruisme qu'on fait remonter à Becker, Gary Becker, dans ses travaux des commis de la famille, par exemple. Par exemple, on pourrait dire, dans un jeu de l'ultimatum, le proposant qui propose la moitié du gâteau au répondant est altruiste. Il aime bien le répondant. Il a du plaisir à voir le répondant heureux. Bon. On pourrait dire cela. Mais à ce moment-là, ça ne permettrait pas, ça permettrait d'expliquer pourquoi il donne, en effet, mais ça ne permettrait pas d'expliquer pourquoi un répondant qui aurait reçu une petite part de gâteau, seulement, refuse souvent cette petite part. Alors on pourrait dire, enfin on pourrait l'expliquer, on pourrait dire, ah ben lui il n'est pas altruiste, au contraire il est envieux. Hein, c'est un mauvais caractère, envieux, il ne veut surtout pas que l'autre ait une grosse part, donc il refuse. Bon. Mais il faut savoir que dans les expériences, les sujets qui jouent les deux rôles sont non seulement anonymes, mais tirés au hasard, au sort. Par conséquent, pourquoi, en tirant au sort, les uns seraient-ils systématiquement altruistes quand ils jouent un rôle et systématiquement envieux quand ils jouent l'autre rôle ? Donc ça ne colle pas. Donc ce n'est pas une bonne explication. Alors on peut aussi invoquer une hypothèse d'aversion à l'inéquité, oui, l'inégalité, qui est due à des papiers, des articles très connus de Fair et Schmidt, de Bolton et Hockenfels. Et c'est une hypothèse qui est assez populaire encore en économie. Là, par exemple, ça reviendrait à dire que les gens n'aiment pas l'inégalité. Bon. Ils ont une certaine conception, ils aiment bien, ils n'aiment pas avoir moins que les autres. On pourrait même dire, peut-être, dans certains cas, qu'ils n'aiment pas avoir plus que les autres. Peut-être un peu moins la deuxième que la première, mais bon. Donc on peut imaginer une fonction de préférence sociale qui va au-delà de l'hypothèse d'égoïsme, qui introduit donc une utilité, qui fait dépendre l'utilité non seulement de ce que nous avons, nous, mais aussi de ce que nous avons par rapport aux autres. Et de cette façon, on peut expliquer le résultat, par exemple, du jeu de l'ultimatum ou du jeu de marché. Mais encore une fois, vous voyez que c'est une hypothèse un petit peu a priori, un peu ad hoc, en quelque sorte. Et une troisième possibilité, qui a été également avancée, c'est une hypothèse de réciprocité, selon les intentions qu'on attribue à l'autre. Et c'est Matthew Rabin, un économiste américain, qui a proposé cela le premier. C'est-à-dire que, au fond, l'idée, c'est que si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Et si vous êtes méchant avec moi, je serai méchant avec vous. Voilà, c'est une réciprocité. Si je pense que vous avez agi avec une mauvaise intention, par exemple en ne me donnant pas beaucoup, je serai méchant, moi aussi, je me mettrai en colère et je détruirai éventuellement le gâteau. Voilà. Et au contraire, si vous êtes gentil avec moi, en me donnant suffisamment, eh bien, je serai poli et gentil avec vous. Voilà. Enfin, ça, c'est un peu l'idée. Simplement, là, encore une fois, ça correspond à une certaine intuition, mais qui tombe un petit peu du ciel aussi, pour l'instant. Et on ne sait pas très bien comment comment chacun connaît les intentions des autres. Qu'est-ce qui me permet de connaître les intentions des autres ? Qu'est-ce qui me permet, dans un jeu, qu'est-ce qui permet aux agents, aux joueurs, de se coordonner tacitement, même sans discussion ? Donc c'est justement ce que nous allons essayer de voir. Alors, nous allons essayer de le voir dans ce qui suit, en introduisant la cognition sociale, c'est-à-dire comment nous lisons dans la pensée des autres. Alors pour ça, on va s'inspirer de la littérature psychologique qui renonce à l'idée de préférence a priori qui tomberait du ciel et cherche plutôt à construire les préférences des joueurs selon le contexte, selon le type d'interaction en cours. Et nous allons donc essayer de combiner, d'utiliser la théorie économique, et en particulier, on va le voir ici, la théorie du choix social, pour générer, en quelque sorte, des préférences sociales, voilà, pour les construire. Donc j'en viens à ce qu'on appelle en psychologie sociale la cognition sociale, ou encore la théorie de l'esprit, si on veut. Alors, bon, ce qui est fondamental, et qui avait d'ailleurs été bien décelé déjà par Adam Smith, notamment, et, au XVIIIe siècle, c'est que l'être humain a une capacité qui n'est peut-être pas tout à fait unique. On dit que certains chimpanzés ou autres grands singes peuvent avoir cette capacité. En tout cas, elle est très peu partagée dans les espèces vivantes. L'être humain possède cette capacité de se mettre à la place des autres. Capacité. Bon, on ne sait pas si elle est innée ou acquise, on pense qu'elle est largement acquise, même s'il y a peut-être quelque chose d'inné. Et elle se développe en tout cas au cours de l'enfance et même de l'adolescence, selon Piaget, principalement par un effet de l'expérience vécue. Et cette capacité va nous permettre de lire les pensées des autres et de construire nos préférences en fonction de la situation, du contexte social, par ce qu'on peut appeler un échange symbolique des rôles, c'est-à-dire par l'imagination. En effet, voyons comment ça peut fonctionner. Bon, quand nous sommes en interaction avec les autres, avec un ou plusieurs autres, on peut se dire, on peut raisonner d'abord de la façon suivante. Si j'ignore tout du rôle Au fond, je me mets à la place des autres. C'est-à-dire que je peux jouer n'importe lequel des rôles qui vont être joués au cours de cette interaction. Je peux être à la fois moi-même et mon interlocuteur. Par la pensée, par l'imagination, de manière purement symbolique, évidemment. Pendant un temps, avant, pendant le processus de décision qui précède la décision elle-même et les résultats qui en découlent. Donc, dans cet instant, il est rationnel d'attribuer, si j'ignore tout de ce rôle, je peux être tout le monde. Imaginons que je le sois de manière tout à fait impartiale, c'est-à-dire en me fixant une égale probabilité d'être n'importe qui. Ça correspond à l'hypothèse qu'on fait dans la théorie du choix social, depuis Harsanyi au moins, l'hypothèse de voile d'ignorance. C'est-à-dire qu'on suppose que les gens décident sous un voile d'ignorance, sans savoir quelle sera leur position future. Donc, à un moment, si vous voulez, au début du processus de décision, nous pouvons imaginer que nous sommes dans cette situation. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, au fond, nous sommes sous un voile d'ignorance, c'est-à-dire que nous décidons nous ne sommes pas encore dans notre rôle, celui qui nous est attribué dans le jeu, mais nous sommes provisoirement, temporairement, dans tous les rôles possibles. Par exemple, prenons le jeu de l'ultimatum. Vous êtes recruté pour aller jouer ce jeu de l'ultimatum. Vous entrez dans la salle de labo expérimental, on vous assigne une place, vous asseyez devant un ordinateur, vous êtes prêt à jouer. Pendant un instant, on vous expose la règle du jeu. On vous dit, il y a des proposants, des répondants, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pendant un instant, on ne vous dit pas, et vous ne savez pas encore qui vous êtes, qui vous serez. Donc, il y a un instant où vous êtes potentiellement les deux, à la fois proposant et répondant, avec une égale probabilité. Donc on peut voir les choses ainsi. Cela dit, on distingue ensuite plusieurs mécanismes, ils empruntent tous ce début-là, mais ensuite on distingue plusieurs mécanismes de cognition sociale. Le premier d'entre eux, c'est l'identification aux autres. Qu'est-ce que c'est ? L'identification aux autres, c'est un processus mental de réincarnation dans l'identité des autres. C'est au fond ce que fait ou ce que devrait faire un bon juge impartial. Un juge se trouve confronté en général à des prévenus, des victimes. Pendant qu'il instruit, si vous voulez, le dossier pour aboutir finalement à un jugement, il entre, c'est un processus assez long. Il arrive à connaître les uns et les autres de manière très, très complète. Il arrive à se mettre un peu dans la peau des uns et des autres, à voir les raisons qui ont pu animer l'un ou l'autre. Donc au fond, il agit un petit peu comme cette personne qui peut se trouver à un moment donné et peut se trouver à la fin soit dans la peau de la victime, soit dans la peau du prévenu. Et son rôle va être de déterminer, raisonnons si vous voulez sur par exemple le partage d'une somme d'argent, parce que c'est plus simple à concevoir, son rôle va être de déterminer l'allocation de cette somme, allocation juste, c'est-à-dire en fait celle que les deux parties, ou les nombreuses parties, s'il y en a plus que deux, hein, auraient librement souhaité, en connaissance de cause, s'il n'y avait pas eu de conflits, d'intérêts stratégiques et des choses comme ça. Alors, on peut représenter le comportement d'un tel juge. Alors, le juge peut être lui-même une partie. Alors, je sais bien qu'on dit on ne peut pas être juge et partie, mais en réalité, on peut être juge et partie. Ce n'est pas à condition d'être vraiment impartial. C'est la difficulté, c'est d'être impartial quand on est soi-même partie. Mais supposons qu'on... Mais ce n'est pas théoriquement impossible à concevoir. Donc, imaginons un juge impartial, que j'ai appelé K ici, qui s'identifie à N personnes, N membres d'un groupe, composé d'au moins deux personnes, évidemment, dont il peut faire partie ou non, ça n'a pas d'importance, comme je viens de le dire, et qui cherchera à partager un gâteau ou une certaine somme d'argent entre tous les membres. Comme il est en situation d'incertitude, puisqu'il peut occuper n'importe laquelle des positions futures, et c'est ça qui va déterminer sa décision juste, l'économiste va pouvoir le décrire, en théorie du choix social, comme maximisant ce que nous appelons une espérance d'utilité, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, la moyenne pondérée par les probabilités respectives, ici 1 sur n, puisqu'elles sont équiprobables, de toutes les utilités qu'il pourrait retirer dans la position future et qui résulteraient du partage qu'il décide. Alors, il peut décider, vous voyez ici, donc, il imagine, il s'identifie à tous les autres, c'est-à-dire qu'il prend leur peau, il prend leur fonction d'utilité, c'est-à-dire leur préférence. Il connaît leur situation initiale, c'est-à-dire leur richesse initiale. Et il décide d'un certain transfert qui peut être positif, enfin qui sera, dans mon exemple, il est supposé positif ou nul, et inférieur à la taille de la somme à partager, que j'ai appelé C. La somme de tous les transferts étant égale, évidemment, à C. Bon. Voilà. Et ce juge impartial, on fait l'hypothèse qui est la plus courante en économie, on suppose qu'il n'aime pas le risque, il ne veut pas se trouver dans une situation particulièrement désavantageuse, et donc il a ce qui équivaut à une hypothèse ici de concavité de cette fonction d'utilité. Donc ça, ce sont les hypothèses très traditionnelles en économie. Eh bien, si on fait ces hypothèses, qu'on résout ce programme, hein, ce qui est simple, le résultat que l'on trouve, et c'est la préférence sociale, au fond, qui résulterait d'une identification complète aux autres, c'est que le juge va essayer de rendre les utilités marginales égales entre elles, c'est-à-dire les dérivés des utilités totales, les UI, au sein du groupe. Alors, si les membres du groupe ont des richesses, supposons qu'ils aient tous la même préférence, la même fonction U, mais des richesses, par exemple, différentes, pour raisonner, il y a des riches et il y a des pauvres. Eh bien, dans ce cas, en général, les transferts choisis iront prioritairement aux plus pauvres et seront très inégaux, dans la mesure où l'utilité marginale de la richesse diminue avec la richesse. C'est-à-dire qu'on commence à favoriser les plus pauvres parce que c'est ce qui et les plus riches éventuellement n'auront rien. Bon, éventuellement. À la limite, quand vous partagez en deux, simplement, s'il y a un pauvre et un riche, c'est en général le riche qui donne au pauvre. Et c'est dans ce sens que se fait pratiquement toujours le transfert. Bon, voilà la solution classique en économie qui, par exemple, justifie la progressivité de l'impôt, des choses comme ça. Voilà. Alors, cette solution, elle a la faveur des économistes parce qu'elle elle donne des allocations efficaces, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être améliorées sans dégrader la position de quelqu'un, la situation de quelqu'un. Mais elle a un inconvénient majeur sur le plan économique, si on veut, mais aussi, disons, psychologique ici, c'est qu'elle exige de la part du juge une très bonne connaissance des caractéristiques des autres. Alors, c'est peut-être ce qui explique pourquoi la justice est si lente. Il faut du temps pour l'instruction. Mais dans la vie de tous les jours, hein, il faut, on n'a pas, en général, on n'a pas ce temps. Et donc, il faut connaître la richesse de tous les membres du groupe. Il faut connaître les préférences de tous les membres du groupe et peut-être encore d'autres choses, ça dépend des problèmes. De sorte que donc ce processus est très exigeant en information et en général on n'a pas cette information. Donc ce processus va être réservé à des petits groupes stables, durables, comme la famille. On se connaît bien en famille en général. Ou bien des petites communautés, bon, des groupes fermés qui se connaissent bien et qui ont une longue existence ensemble. Mais ça peut aussi, on peut aussi trouver des procédés d'identification. On peut s'identifier à des personnages célèbres, un héros. Quand on regarde un film, on s'identifie pendant le film au héros. On s'identifie à des stars, à des vedettes du cinéma, etc., à l'équipe de football de son club qui vient de gagner un match, etc., par un transfert symbolique. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, comme l'allocation qui va résulter de cette procédure d'identification va favoriser le pauvre, et que nous sommes dans la situation du pauvre par rapport aux riches, à la star, à l'homme célèbre, au héros, etc., c'est nous qui allons recueillir les gains, en quelque sorte. Et donc, c'est ce qui nous rend, en fait, plus heureux, ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc, c'est un procédé qui peut être utilisé dans un certain nombre de situations, mais pas toujours. Alors, que se passe-t-il ? Comment on peut faire un juge impartial qui manquerait d'informations sur les autres ? Alors, ça a été imaginé, la réponse a été imaginée déjà par Adam Smith et beaucoup d'autres. La deuxième méthode, ça consiste à se projeter soi-même, tout ce que nous sommes, avec toutes nos caractéristiques que nous connaissons par l'hypothèse, sur les autres. Les autres sont comme nous. Ça correspond à ce qu'on appelle le principe de sympathie smithien, de Adam Smith. Alors là, c'est en anglais, je ne l'ai pas traduit, mais je vous le traduis rapidement. Adam Smith nous dit, une très belle phrase, « Comme nous n'avons pas d'expérience immédiate de ce que les autres ressentent, nous ne pouvons pas nous représenter la manière dont ils vont être affectés. » Nous ne pouvons ne la représenter qu'en concevant que nous-mêmes, quand nous mettons nous-mêmes dans cette situation. Donc, toute faculté personnelle est la mesure euh, de... au fond, tout ce que nous... Si vous voulez, je juge de votre vue par ma vue, de ce que vous voyez par ce que je vois, de ce que vous entendez par ce que j'entends, de ce que vous raisonnez par ce que je raisonne, de ce que vous ressentez en bien ou en mal par ce que vous ressentez, de ce que vous aimez par ce que j'aime. Voilà. Je ne peux avoir aucun autre moyen de juger de ces choses-là. Donc, au fond, une façon très simple, c'est de nous projeter sur les autres, de considérer que les autres sont comme nous. Alors, on peut bien sûr, en réalité, combiner les deux, l'identification et la projection de soi sur les autres. Si, par exemple, on connaît, disons, la richesse des autres, par exemple, mais qu'on ne connaît pas leurs préférences, on pourrait s'identifier à eux en matière de richesse, mais se projeter sur eux en matière de préférence. Voilà. On peut combiner les deux. Donc ça donne beaucoup de souplesse. Alors, comment ceci peut-il être analysé? En reprenant le même modèle, au fond, que tout à l'heure, eh bien, en réalité, la différence, donc un juge impartial, toujours cas, qui se projetterait sur les membres d'un groupe de n personnes, partagerait la somme petit c entre eux, en maximisant cette fonction, cette espérance d'utilité, comme, un peu comme tout à l'heure, sauf que ce qui change, il y a peu de choses qui changent, mais ça change quand même complètement le résultat, vous allez voir, sauf que cette fois-ci, il ne cherche pas à s'identifier aux autres, c'est-à-dire qu'il se projette sur eux, c'est-à-dire qu'il leur attribue la même fonction d'utilité à tous, et qui est la sienne, UK, et, par exemple, il leur attribue aussi le même niveau de richesse initiale que lui-même, WK. Moyennant quoi, il résout sinon un programme formellement analogue, mais dont la solution est totalement différente. En effet, la solution de ce programme consiste à diviser la somme en parts égales, tout simplement, c'est-à-dire en n, s'il y a n personnes, vous divisez un gâteau en n parties égales. Simplement, cette solution, elle est juste en un sens, mais elle ne modifie pas ou à peine la distribution des richesses initiales. Ainsi, le riche restera riche et le pauvre restera relativement pauvre. Voilà. Enfin, il y a une troisième manière de raisonner en situation d'interaction, et c'est tout simplement celle qu'avaient employé les économistes, c'est-à-dire prendre les caractéristiques des autres pour des données idiosyncrasiques. Les gens sont ce qu'ils sont. Les autres sont ce qu'ils sont. Moi, je suis moi, mais les autres sont ce qu'ils sont. Et c'est au fond la stratégie que l'on a décrite comme égoïste, c'est-à-dire qui va aboutir, si on se fixe le même programme à résoudre, à garder toute la somme pour moi-même. Voilà. Donc voilà trois stratégies. De cognition sociale, la stratégie d'identification aux autres, la projection de soi sur les autres et la stratégie égoïste ou individualiste. Voilà, et je vais tout à l'heure en montrer une quatrième, mais peut-être quelques... J'essaie de regarder un petit peu le temps que j'ai, voilà, oui. Il faut laisser aussi un peu de temps pour les questions, alors après...